Philippiens, chapitre 3, verset 15. Nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis à Dieu, de Dieu, vous éclairera aussi là-dessus. Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement un point où nous en sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyons tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Chapitre 4. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur bien-aimé. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Èche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément, et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Juste pour rappeler un peu le contexte de Philippiens, Paul est en prison, et on a vu au travers des différentes études que Paul démontre son amour, démontre un témoignage, démontre son combat. Bref, c'est quelqu'un qui est un vrai modèle malgré la situation dans laquelle il se trouve. On a vu dans le chapitre 2 aussi que Jésus-Christ est le modèle par excellence. Et évidemment, c'est lui qu'on voudrait tout simplement imiter. Il dit aussi, Paul, dans cette épître, que nous sommes appelés à courir une bonne course. On avait vu ça la dernière fois, parce qu'on peut courir d'une mauvaise manière, mais le Seigneur nous appelle à courir d'une bonne manière. Et en attendant, durant cette course, en attendant qu'un jour on soit ressuscité, eh bien, il nous demande de vivre dans l'unité. Dans l'unité. C'est ce qu'on va voir un peu ce matin, parce que l'Église, qu'on le veuille ou non, est attaquée de l'extérieur, mais des fois elle est attaquée aussi de l'intérieur. Et quand vous voyez une Église qui explose, qui se divise, c'est tellement triste, et ça existe, hélas. Et il y a des années, je ne vais pas dire où ça s'est passé, parce que c'est une histoire vraie, une Église s'est divisée à cause du sapin de Noël. Parce qu'il y en a qui ne voulaient pas le sapin de Noël, et il y en a qui voulaient le sapin de Noël. Non seulement ils sont divisés, mais ils se sont fait un procès les uns contre les autres. C'est allé jusqu'à la loi, à cause de ce petit machin-là. Tout ça parce que, on en parle un peu le vendredi, on est des fois un peu légaliste. Parce qu'on pense qu'il ne faut pas mettre un sapin. Je ne sais pas si votre opinion, vous allez peut-être me taper tout à l'heure parce qu'on a mis un sapin, mais on ne va pas aller jusqu'au procès, ça je vous le promets. Mais voilà, à un moment, même de l'intérieur, parce qu'on a des idées préconçues, parce qu'on a une religion peut-être, parce qu'on est légaliste, on peut arriver à se diviser et faire imploser une église. J'espère qu'on n'arrivera jamais à ce stade-là. Et justement, Paul, lui, prévient ce danger et cherche justement à ce que les chrétiens chérissent l'unité, et vous allez voir comment on peut le faire. Dans un premier temps, il donne des outils, on pourrait dire, pour conserver cette unité. Et il dit, il parle en fait aux hommes parfaits. Alors, si vous vous souvenez, la semaine dernière, il a dit que lui n'était pas arrivé à la perfection. Alors, ne confondons pas les deux choses. Là, Paul est en train de dire qu'il parle à des hommes qui sont matures, des femmes aussi matures, hein, des chrétiens qui sont accomplis, plutôt par opposition à ces chrétiens qui sont des fois des enfants et qui sont encore en train de se nourrir au lait. Donc il parle à des hommes qui sont matures, qui savent ce que Dieu veut dans leur vie. Hein. Il ne parle pas de cette perfection finale, quand on sera, comme Rémi l'a dit tout à l'heure, un jour avec le Seigneur où on sera absolument parfait, beau, fort, sans maladie, enfin le rêve de tous les hommes. Quoi. Mais ça c'est pour plus tard. En attendant, il s'adresse à des hommes qui sont matures. Du moins, il espère en trouver quelques-uns dans l'Église. Et si tout le monde arrive à cette maturité, forcément, quelque part, l'unité va être soudée. On peut être que unis si on est mature. Alors, peut-être qu'il y en a qui pensent que Paul était en train de faire une forme d'ironie vis-à-vis des Philippiens qui se sentaient un peu trop mûrs. Si je vous posais la question, est-ce que vous êtes mature spirituellement? Je ne veux pas savoir. Vous avez déjà posé la question, où est-ce que j'en suis vraiment avec Dieu, avec le Seigneur, dans ma vie spirituelle? Est-ce que je peux dire que je suis quelqu'un qui est un homme fait ou une femme faite? Mais si nous sommes vraiment matures, alors il donne des outils dans Philippiens. Le premier outil qu'il dit, c'est d'avoir une même pensée. Pour voir, quelque part, il dit « ayez une unité doctrinale hein, ». Parce que si chacun pense autre chose dans l'Église, ça va être difficile d'avancer ensemble. Hein. De quelle pensée Paul avait là, on ne sait pas exactement, mais peut-être que par rapport au contexte, il se posait la question si tout le monde était d'accord sur la résurrection, parce qu'ils étaient d'accord sur la perfection qu'on va un jour atteindre dans la gloire. Parce qu'un jour, on se rend dans la gloire. Et ça semble appuyé par le verset 20 et par d'autres passages où il parle de la cité, où il parle de ce corps qui va être un jour transformé. En tout cas, lui, il sait qu'il n'a pas encore atteint cette perfection finale, on va dire, et il sait qu'il est un homme, qu'il a des défauts, et il s'adresse là aux Philippiens. Et en fait, le fait de savoir qu'on n'est peut-être pas encore parfait, ça devrait nous pousser plutôt à l'humilité. Pourquoi me battre pour un sapin si je suis encore pas parfait? Peut-être que je me trompe. Ou peut-être il faudrait vraiment pas en mettre. Là, c'est peut-être moi qui me trompe, je ne sais pas. On va débattre un jour sur les sapins. On va mettre autre chose, mais bon. Mais voilà, si je découvre, et parce que je suis mature, je découvre que je ne suis pas encore parfait, ça me laisse, on pourrait dire, une espèce de champ, d'option, d'ouverture qui me dit « Oh, je suis pas trop sûr de toi quand même. Il y a des choses dans la Bible, je suis sûr. Jésus est mort sur la croix, on va pas remettre ça en question. » Mais il y a peut-être des fois des petits no man's land là où on va peut-être se disputer bêtement pour rien. Si je suis mature, je dois rester humble et avoir aussi le courage de parler avec l'autre et de discuter. Prends le temps. Ça fait pas de mal discuter. Moi, j'adore discuter. J'adore débattre aussi, mais dans la paix. C'est pas la même chose que se disputer et se taper sur la figure. Paul est conscient des divergences des divergences doctrinales. Parce qu'il dit, il y a d'autres avis dans l'Église. Il y a d'autres avis. Vous ne pensez pas tous comme moi, ça je suis sûr. Si on parle du repas de Noël, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Non, ce n'était pas le plus important. Mais voilà, on a d'autres avis parfois, et c'est une réalité, alors une réalité qui existe, mais qui vient soit de pas assez de connaissances, ou trop de connaissances des fois. Puisque Paul, enfin, l'Épître aux Hébreux dit que des fois on en est collé et qu'on ne sait pas assez la parole, et il y en a qui enflent à cause de leur connaissance, ils croient tout savoir. Donc où est-ce que j'en suis là-dedans aussi, c'est une question. On pense souvent avoir raison, et c'est naturel en fait. On ne fait pas forcément exprès, mais on pense avoir raison. Et là c'est l'histoire d'un monsieur qui pensait avoir raison. C'est un homme cherchant sa route, s'est trouvé dans la confusion et sans s'en rendre compte a pris l'autoroute à contresens. Immédiatement, on entendit à la radio, un véhicule vient de prendre l'autoroute à contresens à tel endroit. Et le conducteur de dire, ils sont menteurs, ces journalistes, ce n'est pas un véhicule qui a pris l'autoroute à contresens, c'est tous les véhicules. Il croyait que lui, il était dans le bon sens, mais c'est lui qui était en fait dans l'erreur. Et bien souvent, on est comme ça, on pense avoir raison. Et on ne va pas s'arrêter, on ne va pas prendre le temps d'ouvrir la Bible, d'étudier peut-être certaines difficultés, des fois dans la Bible, parce qu'on pense avoir raison, parce que je l'ai appris un jour. Vous savez, on est plein de convictions qu'on a gobées. Je suis désolé de le dire comme ça. Plein de convictions qu'on ne peut pas défendre. Je dis souvent, pourquoi vous ne parlez pas en langue? Ah ben parce qu'on ne le fait pas. Oui, mais ça, ce n'est pas une conviction pour moi. Ça, c'est une tradition. Ça n'a rien à voir. Est-ce que je suis capable de défendre cela? Etc, etc. On est trop sûr des fois. Mais Paul ne le condamne pas. Il n'est pas en train de les accuser, mais il appelle à la responsabilité personnelle. Il appelle à la maturité. Et ça, ça dépend de moi seulement. Je ne peux pas l'imposer aux autres. C'est moi qui prends cette décision-là. Un deuxième outil, c'est marcher d'un même pas. On pourrait parler d'une espèce d'unité de mouvement. On va dans un sens. Il dit au point où nous en sommes arrivés. Alors là, chacun est différent ici. Il y en a qui sont convertis il y a très, 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 très longtemps. Il y en a qui sont juste convertis. Donc là où on en est aujourd'hui, au niveau où on en est arrivé, eh bien, ça me concerne aussi, l'unité. Ce n'est pas parce que je suis un vieux chrétien que je me dis, bon, c'est un vieux truc, c'est pour les nouveaux, non. Ou ce n'est pas parce que je suis un jeune chrétien que je ne dois pas m'intéresser à cette unité de l'Église. Si je suis un vieux chrétien, ça veut dire que j'ai quand même pris le temps d'étudier la Bible et je suis capable de défendre ma foi, de pouvoir conserver cette unité. Si je suis un jeune chrétien, j'y vais doucement, avec beaucoup d'humilité, parce que je ne connais pas assez de la Bible non plus. Des fois, on croit tout savoir. C'était comme ça quand j'étais jeune chrétien. Je fonçais dans le tas, mais j'étais idiot. Mais bon, on change depuis. Tous ne sont pas au même niveau. Et certains ont besoin de grandir, ceux qui viennent de se convertir, besoin de croissance, c'est normal. Il y en a d'autres qui stagnent depuis des années et qui se disent « Je suis sauvé, je suis bien, je viens le dimanche de temps en temps, et puis voilà, Dieu m'aime, et puis non. » Le Seigneur veut qu'on aille beaucoup plus loin que cela. On a tous à bouger, à marcher, aller de l'avant, marcher d'un même pas. Marcher d'un même pas, en fait, le mot, ça traduit une verge ou une pièce de bois droite à laquelle on fixe quelque chose qui doit rester droit, en fait. Dans la métaphore, c'est toute règle ou standard, principe ou loi concernant les jugements, la vie et les actions. D'une certaine manière, c'est tous ensemble, marcher dans une ligne droite, on pourrait dire, mais ensemble. C'est pas chacun va dans son coin et puis on marche comme on a envie. C'est de marcher ensemble. Alors parfois, on va peut-être un peu... Reviens. On va parler. Pourquoi tu t'écartes là? On va parler, on prend le temps de discuter. Mais l'idée, c'est de marcher tous dans la même direction. Et surtout, c'est pas que marcher dans la même direction, c'est marcher ensemble. Et si à un moment, quelque chose nous perturbe, on reste comme ça? Ben non, on en parle. On en discute. Et puis on avance tranquillement, ensemble. On n'est pas pressé non plus. Il n'est pas dit de marcher vite. Donc on peut prendre le temps et marcher ensemble. La liberté chrétienne ne signifie pas une marche autonome et indépendante. Ce n'est pas parce que je suis en Christ que je fais ce que je veux, comme je veux. J'essaie d'être avec les autres. C'est ma responsabilité en tant qu'individu, celle de mieux connaître celui en qui je crois. Parce qu'on dit « je crois en Dieu ». Mais quel Dieu? Qu'est-ce qu'il peut pour moi? Qu'est-ce qu'il fait pour moi? Ça, souvent, on ne peut pas le répondre. Et on le voit souvent dans l'épreuve où, grosse panique et on lâche complètement la foi parce qu'on ne connaissait pas vraiment Dieu. Et dans un troisième outil, c'est devenir des imitateurs. On pourrait parler de l'unité de comportement. Un peu l'idée. Il dit, vous êtes des imitateurs de Paul, par exemple. Alors Paul, on peut l'imiter parce que c'est vraiment un exemple en prison. Il a été fidèle malgré qu'il soit en prison, malgré qu'il pensait peut-être même mourir en tant que martyr. Et il était un modèle de fidélité, mais aussi de joie, puisqu'il disait la dernière fois, alors qu'il est en prison, à ses Philippiens, réjouissez-vous. Le jour où vous serez en prison, j'aimerais vous entendre dire ça. Vous allez dire, ouais, réjouissez-vous. Vous allez râler, Vous attendrez des oranges. Mais lui était vraiment un modèle à imiter. Alors, évidemment, le modèle, c'est Jésus-Christ, on est bien d'accord. Mais quelque part, on peut trouver un mentor dans notre église. On peut trouver quelqu'un, tiens, j'ai envie de lui ressembler. Faites pas trop ça, parce que moi, j'ai voulu le faire à un moment et j'étais vraiment surpris. Mais quand même, si quelqu'un fait bien dans l'Église, on peut l'imiter. Et aussi de ceux qu'on avait vus la dernière fois, Épaphrodite, Timothée, qui étaient aussi là cités en exemple de la part de Paul. La question maintenant qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce que quelqu'un pourrait m'imiter moi, en tant que chrétien? Est-ce que j'aimerais que quelqu'un m'imite? Répondez pas, je veux pas savoir. M'imitez pas moi. Mais on peut se poser la question quand même. Ça veut dire, est-ce que je suis un modèle? Est-ce que je suis vraiment fidèle? Est-ce que je suis heureux comme l'apôtre Paul malgré les difficultés? Question qu'on peut se poser. Comme eux, nous voulons prendre aussi Christ comme modèle, puisque c'est lui le fondement, l'exemple par excellence. Maintenant, on ne pourra jamais être Christ. Ça, c'est impossible pour nous. Mais on peut essayer d'y tendre au maximum. Et c'est Paul qui le dit dans le chapitre 2. Et imiter Christ, quelque part, si vraiment je veux faire comme Jésus-Christ, et peut-être comme Paul, etc., ben forcément, naturellement, l'unité va se mettre en place. Parce que si j'ai une bonne doctrine, forcément, il y aura de bonnes actions. S'il y a de bonnes actions, il y aura forcément de bons comportements. Mes comportements dépendent de la doctrine. Souvent, on ne veut pas faire de doctrine, ça nous saoule. On veut juste du pratique. Comment faire, etc. Mais je suis désolé, on peut pas rouler sur la route sans le code de la route. Ou alors, vous faites n'importe quoi. Vous cédez les passages, etc. Donc c'est la même chose. Si je veux savoir comment me comporter dans l'Église, comment agir, je dois savoir ce que le Seigneur veut pour moi. Et ça s'appelle, hélas, la doctrine. Et je pense que si on prend le temps d'étudier vraiment la Bible à fond, vous allez voir qu'il y a des points pour toutes les situations de la vie. Il y aura peut-être des petits flous quelque part, mais au moins il y aura des principes. Et des principes, c'est déjà pas mal que rien du tout. Vous savez, quand on est à la croisée des chemins, est-ce que je dois faire ou est-ce que je ne dois pas faire? C'est pas évident des fois en tant que chrétien. Mais d'un coup, il y a un petit verset qui revient là, ou un petit principe qui revient dans la tête, et puis ça m'aide à avancer, et finalement, je suis en paix. La doctrine apporte la paix. Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Ceux qui n'aiment pas, Mais bon. Donc Paul nous donne les moyens, là, enfin c'est le Seigneur quelque part derrière Paul, les moyens de conserver cette unité, avoir une même pensée, c'est un effort personnel et communautaire en même temps, marcher d'un même pas, une unité de mouvement et aussi devenir des imitateurs, des gens qui sont fidèles et à qui on voudrait tout simplement ressembler. Puis dans un deuxième temps, Paul va dénoncer les ennemis de l'unité, parce qu'il en parle et avec des pleurs même il le dit. Les ennemis de la croix, comme il les appelle, moi je les appelle les citoyens de la terre, vous allez comprendre pourquoi. Qui sont ces ennemis? On en avait déjà parlé, c'est les faux docteurs. Les judaïsants qui voulaient revenir absolument à la loi. Les gnostiques, c'était une philosophie à l'époque qui était là, mais un peu élitiste. Il y avait deux dieux, enfin bon, c'est un peu compliqué. Et tout cela, ils rentraient tranquillement dans l'église, et puis ils parlaient, prêchaient, peut-être enseignaient les uns et les autres, et détournaient tout simplement les fidèles, et nuisaient tout simplement à l'unité. Parce qu'à un moment, quand le venin rentre, forcément, on se pose des questions. Et j'ai déjà vu ça. Des gens qui se remettent en question face à de fausses doctrines. Ils disent « Ah oui, tiens, pourquoi pas ?» Et finalement, ça peut aller très vite. Ils sont ennemis de la croix. Et ça, c'est grave quand Paul dit « ennemis de la croix ». Vous imaginez ça? On peut peut-être imaginer aussi que s'il dit « ils sont ennemis de la croix », c'est qu'ils remettent en question peut-être tout simplement le sacrifice de Jésus-Christ. Ils prêchent en tout cas des fausses doctrines et Paul, lui, les dénonce. Des fois, on est un peu timide, mais on va voir. Paul en parle souvent même. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Plusieurs fois, il revient sur ces fausses doctrines. Alors des fois, vous allez dire, peut-être que le pasteur, il est saoulant en disant qu'il y a des fausses doctrines et tout ça. Mais là, je me suis dit, tiens, j'ai un verset maintenant qui me dit que je peux le faire. Donc vous allez m'entendre souvent, hein. Non. Mais il en parle souvent, et surtout, il le fait en pleurant, et surtout parce qu'il aimait, évidemment, les fidèles. Il ne voulait pas qu'ils s'écartent comme les Philippiens et qu'ils courent des dangers. C'est de l'amour, au fond. C'est pas pour embêter les gens. C'est vraiment de l'amour, parce qu'il veut vraiment que les chrétiens avancent droitement. Il parle de leurs objectifs et de leurs fins. Hein. Il dit c'est pour satisfaire leur ventre, leur orgueil. Ils ont fait de leur ventre leur dieu. C'est marrant parce qu'il y a une fête bientôt qui va être exactement dans ce sens-là. Hein. Foie gras, machin, compagnie. Et tout le monde va aller faire les courses, etc. Et on va se remplir. Je pense. J'ai rien contre, hein, c'est pas ça. Mais s'il n'y a que ça, au fond, c'est bien triste. Parce que nous, en tant que chrétiens, il y aura peut-être la panse avec modération, puisque la Bible dit de le faire avec modération. Mais on va aussi se souvenir de Jésus-Christ hein, et parler à nos enfants, parler peut-être à nos familles s'ils l'acceptent. Pourquoi pas prier le soir ou à la veillée de Noël? C'est que ce n'est pas toujours évident quand on est dans les familles, mais au moins dans son cœur déjà. Hein, de me souvenir que mon Dieu à moi, ce n'est pas la nourriture, il est là-haut. Hein. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre, aux choses charnelles. Ils sont focalisés sur ce qui est sur la terre. Alors là, on veut bien les pointer du doigt en disant « Ah, vous avez vu hein. !» Mais on est comme ça aussi, hein, nos petites maisons, nos voitures, nos jeux, la Game Boy, qu'est-ce que je vais avoir à Noël, etc. D'ailleurs, qu'est-ce que je vais avoir à Noël? Posez la question à ma femme, quoi. Eh bien, regardez, on est charnel. On est aussi charnel. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des cadeaux, on est bien d'accord. On s'entend, mais si ça prend le dessus, si c'est sur ce quoi je me focalise à Noël, j'ai loupé le coche quelque part. On peut se faire des cadeaux. Le plus beau cadeau, c'est de donner une Bible, pourquoi pas. Son enfant, s'il ne l'a jamais lu, hein. Ou peut-être un ami ou une famille. Mais eux, en tout cas ces faux docteurs, ils étaient focalisés sur les choses de la terre, la gloire terrestre. Hein. Ces faux docteurs qui gagnaient beaucoup d'argent certainement, qui volaient, qui trichaient, et ça, ça existe encore aujourd'hui. Et dit Paul, toute cette gloire terrestre va se transformer en une honte éternelle du jugement. Il n'est pas en train de dire qu'ils vont au paradis, hein. Il dit qu'ils vont en enfer. Là. Parce qu'ils ont été ennemis de la croix, ils ont trompé des milliers et des milliers de personnes. En faisant croire certaines choses, c'est grave quand on y réfléchit. Et aujourd'hui, vous en avez des grands comme ça sur Internet, à fond, à fond, à fond, et qui trichent, qui mentent, et qui détournent les chrétiens du véritable évangile. C'est triste, quelque part. Mais c'est à nous aussi de discerner ces choses-là. Paul, lui, avait déjà discerné. Lui, il était tranquille à l'époque, il n'y avait pas Internet. Mais ça existait déjà. Donc ça veut dire que ça se baladait un peu à droite et à gauche, mais aujourd'hui, ça va tellement vite avec Internet. Et Paul va reprendre les erreurs. Parce que des fois, on peut dire « Ah, lui, il n'a pas raison, mais pourquoi il n'a pas raison ?» Ah, parce que souvent, on entend « Ah ouais, celui-là, il ne faut pas écouter. » Mais moi, je donne aussi des pourquoi, parce que c'est facile de dire de ne pas écouter quelqu'un ou de ne pas suivre quelqu'un, mais pourquoi ? Et lui, donc, il évoque, pas dans le détail, mais il dit les erreurs qui sont enseignées de ses ennemis de la croix. Les faux docteurs remettent en question, certainement, on suppose, hein, l'identité du chrétien, l'espérance du chrétien, peut-être même sa résurrection. Parce que pour moi, la résurrection, c'est mon espérance. Ça fait partie de mon identité. Hein. Si je suis chrétien et que je ne pense pas à la résurrection, vous avez loupé quelque chose. Moi, j'y pense beaucoup. Hein. Surtout quand on est malade ou quand on a des petits bobos. Parce que quand on sera ressuscité, on sera jeune et beau, fort. Hein. Je ne sais pas si on sera jeune forcément, mais en tout cas, tout ira mieux dans le corps. Combien il est important de connaître la parole pour ne pas être emporté à tout vent de doctrine. Hein. Eux remettent tout en question. Ils ne le font pas forcément frontalement, généralement. C'est dans la petite subtilité. Hein. Comme le diable, il remet en question, quand il avait tenté Jésus, il remet juste en question, des fois, la parole. Le chrétien n'est pas citoyen de la terre, dit Paul, c'est-à-dire un citoyen charnel, mais il est citoyen du ciel. Je dis souvent, sur votre carte d'identité, il y a écrit « citoyen du ciel ». Vous ne le voyez pas sur votre pièce d'identité, heureusement, sinon vous allez vous faire arrêter à la douane. Mais, pour moi, c'est marqué dedans. Mon pays, il est là-haut. Ma future habitation, elle est là-haut. Et là, il parle d'une cité, mais pas dans le sens habituel du mot polis en grec. Hein. Il parle de la cité dans un autre sens. Alors, juste pour l'expliquer, la définition est donnée comme ça. C'est l'administration des affaires civiles ou d'une communauté. Notre définition de la constitution d'une communauté, forme de gouvernement et de loi par laquelle elle est administrée. Donc, il ne parle pas de la cité globale. Il dit que c'est vivre en citoyen, et en tant que citoyen, je prends part aux affaires, en fait, de l'État dans lequel je suis. C'est un peu, dans la définition, un engagement politique. On ne va pas s'engager en politique ce matin, mais on va s'engager pour le Seigneur. Forme de politique aussi, quelque part. On veut annoncer Christ. On veut prendre part aux affaires de l'État. Le Seigneur ne nous demande pas d'être sauvés seulement. Il dit après qu'il a préparé des œuvres d'avance pour que nous les
pratiquions.
Pas pour que nous les regardions, que nous les contemplions, que, je ne sais pas, pour que nous les pratiquions. Et moi, si je dis que je suis de la cité du ciel, alors ça veut dire que je vais prendre part aux affaires de l'État. J'ai mon rôle dans cette cité, quelque part. J'ai mon rôle en tant que don, puisque le Seigneur a dit que nous avons un ou plusieurs dons dans l'Église. C'est quoi mon don? C'est quoi votre don? Vous me regardez, je ne vais pas vous le dire. Hein. Je cherche avec vous, je prie pour cela, mais c'est à vous de le trouver. Est-ce que je suis actif dans cette Église? Est-ce que j'ai pris part à, justement, cet engagement dans les affaires de l'État? Pas forcément de l'Église, parce que je peux aussi faire des choses à l'extérieur. Hein. Est-ce que je suis vraiment engagé pour mon État? Évidemment pour le ciel. Hein. Vivre notre vie, notre vraie identité, c'est chercher les choses du royaume et pas satisfaire la chair. Il y a une part de notre chair, mais c'est pas ça qui, hein, sur lequel je focalise. Pourtant, on le fait, hélas, bien souvent. On devrait focaliser sur les choses du royaume. Vous savez, quand on se focalise sur les choses du royaume, tout le reste vient. Mais il faut le vivre pour le comprendre. Souvent, on le cherche par nous-mêmes, alors que Dieu, des fois, peut vous l'offrir. Alors que vous vous avez trimé comme des malades, Dieu peut peut-être, des fois, vous l'offrir parce que vous êtes focalisé sur autre chose. Je ne parle pas d'évangile de prospérité, là. On est bien d'accord. Mais Dieu peut pourvoir. Si vraiment j'ai besoin de prendre du temps pour m'occuper des affaires du Seigneur, le Seigneur sait aussi de quoi j'ai besoin et pourvoira. Et puis, peut-être qu'il remettait en question l'espérance du retour de Jésus, ces faux docteurs, hein, puisqu'il était focalisé sur la terre. Donc, à mon avis, il restait sur la terre, mais il ne pensait pas qu'un jour le Seigneur puisse les reprendre. Mais nous, en tant que chrétiens, on attend que Jésus revienne. Tous les jours. Pendant ma pause, peut-être au travail, dit tiens, si Jésus revenait aujourd'hui, vous êtes prêts à vous envoler? Vous êtes prêts à quitter tout ce que vous avez trimé, hein, la maison, les voitures et toutes ces choses-là? Vous êtes prêts à tout lâcher là? Moi, oui. Hein. Ça sera quand même mieux là-haut. Il faut prendre le temps de voir votre maison dans Apocalypse 20. C'est pavé d'or, de diamants, de machins, etc. Enfin, c'est certainement que des images, mais ça va être vachement mieux là-haut, à mon avis. Et en plus, vous payez plus de loyer, plus de taxes foncières, plus de machins. C'est génial, non? Tout est gratuit, de la part de Dieu. Là, je reviens sur la terre. Hein. Mais c'est pas ça qui nous intéresse, évidemment, le plus. Mais c'est d'avoir cette attente, hein, du chrétien qui se prépare. Et quand je me prépare à rencontrer le Seigneur, forcément, ça me conduit à marcher d'une manière digne du Seigneur et à vivre l'unité. C'est obligé. Si je fais n'importe quoi, c'est que je ne suis peut-être pas en train de me dire que je vais rencontrer Christ dans quelques temps. Hein, à mon avis, je ne me prépare pas à ça. C'est aussi trouver un but dans la vie, hein, que cette espérance, c'est donc cette direction dans notre vie, de savoir qu'un jour, on passe, vous voyez, les épreuves, nos difficultés, mais à un moment, on sera avec le Seigneur, et c'est toute mon espérance. Et Noël, c'est aussi se souvenir de cela, se souvenir de cette espérance. Puis peut-être qu'ils ont remis l'espérance de la résurrection en cause aussi, ces faux docteurs. Il parle, Paul, de notre corps d'humiliation. Il se regardait dans le miroir et voyait là un corps d'humiliation à cause de, ça veut dire la bassesse, mais c'est certainement aussi à cause de notre péché. Hein, quand nous nous regardons vraiment dans le miroir, on n'est pas fier de nous, honnêtement. On est encore pécheur, on est loin d'être parfait. Mais lui, il compare ce corps d'humiliation qui sera transformé en corps glorieux. Vous imaginez glorieux? Est-ce qu'on le mérite, honnêtement? Non, personne ne mérite rien du tout, là. Et pourtant, le Seigneur se plaît à passer d'un corps d'humiliation à un corps glorieux. Et ça sera notre avenir. C'est quand même mieux de prendre le temps, des fois, quand ça ne va pas, de penser à ça, plutôt que de penser aux choses de la terre. Non ? C'est quand même plus agréable, quelque part. Même si, je sais, on est un peu terre à terre. Mais pensez à ces choses-là, parce que c'est notre avenir. Ça peut arriver demain. Je le souhaite à personne, évidemment. Mais demain, vous pouvez être avec le Seigneur, dans la gloire. Chouette. Pas de travail. Donc, il remettait peut-être cette espérance de la résurrection, mais Paul dit aussi qu'on sera semblable au corps de de Jésus, hein, dans 1 Jean 3, 2, non, c'est plutôt Jean qui le dit. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, c'est-à-dire à Christ, parce que nous le verrons tel qu'il est. Vous avez déjà rêvé de voir Jésus ? On l'imagine. Cheveux longs. Mais on va le voir tel qu'il est. Et là, dans sa gloire, pas comme l'humain, je pense, qu'on a vu sur la terre, mais dans sa gloire. Et là, ça va faire... Ça va nous calmer un petit peu, à mon avis. On va le voir tel qu'il est, mais nous, en même temps qu'on le verra, on aura le même corps que lui. Ça va être beau. Hein. Ça va être merveilleux, cette rencontre. On pense à beaucoup de choses sur la terre, mais moi, je pense souvent au moment où je vais voir Jésus. Je tremble un peu. Je ne suis pas parfait, c'est pour ça. Et voilà. Mais en même temps, ça sera une espèce de joie et de... Mais comment on est transformé, donc ça sera une joie pleine. Il y a le tribunal de Christ, on sera évalué pour ce qu'on a fait de bien et de mal dans l'affaire, mais après, ça sera la joie des noces de l'agneau et puis de l'éternité. Mais Paul dit que cette transformation est possible par la puissance de Jésus-Christ. Parce que moi, si je crois à la résurrection, si je crois à ce qui va arriver, c'est pas parce qu'un jour ça m'a traversé l'idée. C'est parce que Jésus est ressuscité réellement. Il y a plus de 500 témoins qui l'ont vu ressusciter. Généralement, on demande 2-3 témoins pour prouver que c'est vrai. 500 témoins, on est à des kilomètres. Donc, ce n'est pas parce que moi, je veux le croire, mais c'est parce qu'il y a déjà eu un fait avéré et que Dieu était suffisamment puissant pour transformer Jésus-Christ et le faire ressusciter. Ça prouve que moi, un jour, je ressusciterai aussi. J'espère que ça vous prouve aussi. Donc, Paul n'hésite pas à dénoncer les faux docteurs, là, et il corrige les erreurs doctrinales. Alors, il ne s'agit pas d'être forcément un grand docteur de la théologie, etc. Il y a des choses simples, des fois, qu'on peut corriger chez les gens. Aller gentiment, évidemment, et on va voir comment Paul va corriger dans l'Église aussi. Mais si j'entends, je ne sais pas, moi, à l'époque, dans mon travail, j'entendais des hérésies, des fois, gentiment, je leur disais, non, la Bible ne dit pas ça, je suis désolé. Voilà ce que dit la Bible. Ça fait bien de corriger un peu les préjugés des gens. Non, avec Johnny, il va au paradis des musiciens, j'ai entendu. J'ai jamais vu ça dans la Bible. Hein. Enfin bon, mais quand on voit le monde autour d'une idole... Bon, j'aime la musique, mais quand même à ce point-là, c'est bizarre. Quand Christ est venu, on n'a pas eu ça. Hein. À son enterrement, on n'a pas eu ça. Hein. Pourtant, il est Dieu. Troisième chose que nous apprend Paul là-dedans, c'est oser agir pour conserver l'unité. Dans bien des cas, on voit les conflits... Moi, je ne suis pas le pasteur, j'y vais pas. Toujours au pasteur, d'ailleurs. Non, mais Paul va donner des petits points de repère et comment faire. Hein. Et puis là, il y avait ce fameux conflit entre Évodie et Saint-Tiche. Et lui, il dit, il faut savoir reprendre les conflits. Il dit, demeurez ferme. Demeurez ferme, c'est persévérer, persister, se tenir debout. C'est un effort. Non seulement c'est un effort, mais il va falloir oser, dans certaines circonstances, d'aller vers l'autre pour lui expliquer un peu la vie. Ce n'est pas toujours évident. C'est un effort, et surtout dans le contexte, par rapport aux ennemis. Parce que l'ennemi du chrétien, c'est parfois l'homme, parfois l'Église, c'est le diable aussi qui est là. Et le diable, lui, ben, il regroupe tout ça et il essaie de nuire aux chrétiens, tout simplement. Mais il dit, demeurez ferme et faites cela dans le Seigneur. Premier point, là. Je peux peut-être aller voir quelqu'un, mais si c'est juste pour lui montrer qu'il a tort, laissez tomber. Ça, c'est votre orgueil. Ça n'a rien à voir. Mais si j'y vais dans le Seigneur, que je les ai comme seule référence pour vivre, ça veut dire que je me souviens comme lui, il a agi autrefois, ce qu'il a fait dans des circonstances difficiles, hein, avec l'idée de conserver l'unité, alors je peux y aller dans le Seigneur. Comment conserver cette unité ? Ben Paul le dit, il vit dans la vérité. Et s'il voit quelque chose ou quelqu'un qui détourne la vérité, il le dit gentiment, mais le dénonce. Il ne laisse pas faire. Parce que souvent, on laisse faire. On dit qu'il va peut-être changer, et puis finalement, ça commence à prendre des ramifications, et finalement, c'est toute l'Église qui est polluée après par cela. Lui, il dit la vérité. Il n'ignore pas le problème de Évodie et Saint-Tiche. Il aurait pu dire, ouais, bon, ils ont un problème, je suis en prison, ça me saoule, ils sont fatigants, ces gens-là, voilà. Non, il dénonce, et il réagit, quelque part. Il le dit. Et va reprendre ses deux sœurs en Christ, avant que les choses ne dégénèrent, et c'est là où il est sage, quelque part. Parce que il met son grain de sel, mais il le fait avant que ça explose. Alors, des fois, on n'a pas le temps, ça explose très vite. Mais si on peut le faire avant que ça explose, autant le faire. Et il les reprend. Évodie et Saint-Tiche, on ne les connaît pas trop. Saint-Tiche, je dis toujours Saint-Tiche. Alors, Évodie, ça veut dire parfumé. c'est pour les futurs parents qui ont des bébés, peut-être des idées de nom. Saint-Tiche, c'est rencontre avec le destin. C'est poétique. Mais on ne sait pas grand-chose de ces deux sœurs. Mais il y avait un différent entre les deux dans l'église de Philippe. Et ça démontre que ben voilà, c'est une réalité dans l'église. On peut se disputer. Alors ne le faites pas, mais ça existe, hélas. Ça existe. Et c'est là où j'aime la Bible, c'est qu'elle aurait pu écrire que les belles choses, hein, que tout est beau, etc. La Bible nous dit les choses comme elles sont, réelles. Et surtout quand on pense à l'église de Corinthe, alors là, c'est encore pire. Mais il montre comment savoir résoudre le conflit. D'abord, on l'a dit, Paul dit la vérité, il dévoile le conflit. Hein. Il dit « elles ne sont pas d'un même sentiment ». Et je ne sais pas si vous vous souvenez, depuis le début de l'Épître aux Philippiens, plusieurs fois, il dit « rendez ma joie parfaite, ayez un même sentiment ». Un même amour, une même âme, une même pensée. C'est dans Philippiens 2, 2, verset 5 du même chapitre. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Un leitmotiv dans l'Épître aux Philippiens. Et là, il leur dit justement, « Moi, je vous demande d'avoir les mêmes sentiments, mais vous ne les avez pas. » Donc, il dénonce tout simplement leurs problèmes. Et il ose reprendre, parce qu'il sait que sinon, c'est l'unité de l'Église qui va tout simplement en souffrir. Est-ce que je suis prêt à reprendre des fois quelqu'un ? Ce n'est pas facile de reprendre quelqu'un. Déjà, on se regarde soi-même, on dit « Ah, est-ce que moi, je suis capable de reprendre ? Moi, je ne suis pas meilleur, etc. » Alors, pourquoi je ne suis pas meilleur, déjà ? C'est la question, si je ne peux pas reprendre quelqu'un. Mais il faut le faire avec beaucoup de sagesse. Mais si on ne reprend pas les erreurs, parce qu'on n'est pas assez courageux, parce qu'on est lâche, des fois, excusez-moi le terme, mais parce qu'on est lâche, ou parce que c'est mon ami, parce que c'est ma femme, mon mari, à un moment, ça dégénère, forcément. Peut-être pas tout de suite, hein. Mais il faut savoir reprendre. Et Paul savait résoudre les problèmes, justement. Et c'est marrant parce que nous, on aurait plutôt tendance à dire « Ouais, vous avez eu votre problème, là, il faut changer ça. » Lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il va rappeler leur consécration. Il leur dit leur qualité. Il dit « Elles ont combattu pour l'Évangile avec Paul. » J'ai deux sœurs qui se battent ensemble, qui ne sont pas d'un même sentiment. Mais je rappelle aux Philippiens que c'est des femmes qui ont travaillé pour l'Évangile. Il les met en avant. Il n'est pas en train de les accuser, il voit leur qualité. Hein. Souvent, nous, en tant qu'hommes, on est accusateurs, on aime bien dénoncer le péché de l'autre. Hein. T'as vu le péché qu'il fait ? Alors que lui, il dénonce le problème, mais il reste public quelque part. Et il commence par leur qualité. Elles ont combattu pour l'Évangile avec Paul. Il tenait à ces femmes parce qu'elles ont fait beaucoup d'efforts pour l'avancement de l'Évangile. Il parle de leur identité aussi. Il dit « elles ont leur nom dans le livre de vie ». Ça signifie qu'elles sont sauvées. Et rappelle donc là que c'est vraiment deux sœurs en Christ qui sont sauvées, mais qui se tapent et qui se crapent le chignon, tout simplement. Mais elle rappelle qu'elles sont sauvées. Donc il est en train de parler de leur consécration, peut-être pour elles-mêmes aussi, pour un peu se remettre en question. Là, on parle de femmes, hein, on pourrait parler d'hommes aussi, on se crape le chignon aussi. Mais il rappelle d'abord leur qualité, il n'accuse pas. Et ça, c'est une bonne technique, je trouve, pour résoudre des fois les problèmes et les conflits. Et il continue avec beaucoup de sagesse. Hein. D'abord, il reste discret et pudique puisqu'on ne sait pas le problème. Ah oui ? Il n'a pas déballé l'histoire, il devait certainement le savoir, mais il n'a pas déballé les raisons du conflit. Et nous, on aime bien faire « Oh là là, qu'on peut raconter ce que fait l'autre de mal !» Vous regardez comme ça, mais on est comme ça dans votre tête. Hein. On le fait peut-être pas à ce point-là, mais t'as vu l'autre la dernière fois ? T'as vu sa cravate ? J'exagère, mais bon. Mais on ne déballe pas le conflit. Et si vous voulez reprendre quelqu'un, soyez capable de garder tout pour vous. Et ça, c'est pas simple. Et pour les pasteurs, on est censé garder tout cela, et ma femme ne sait pas tout. C'est un principe qu'on a chez nous. Elle ne sait pas tout, et heureusement d'ailleurs. Mais si moi, je veux aller reprendre quelqu'un, je dois aussi être capable de ne pas déballer le conflit. Sauf si vraiment, ça part en live. Là, il faut peut-être aller voir les responsables de l'Église. Mais discrétion et pudeur. Neutralité aussi. Parce qu'il ne prend pas de parti entre Évodie et Saint-Tiche. Il ne dit pas l'une a raison, l'autre a tort. Et souvent, nous, on dit que l'un a raison, ou alors c'est parce que j'ai des connivences avec la personne. Donc forcément, je lui donne un peu plus raison. Hein. Non, non. Toutes les deux ont tort. Toutes les deux ne sont pas d'un même avis. Et l'exhorte, toutes les deux, à changer d'attitude. Que l'un soit ait raison, que l'autre n'ait pas raison, le problème, ce n'est pas que vous ayez raison, le problème, c'est que vous n'êtes pas d'un même sentiment. On peut des fois ne pas être d'accord et être d'un même sentiment. On prend le temps de discuter, tout simplement. Mais les neutres, ce n'est pas simple d'être neutre. Parce que, voilà, il y a un ami, il y a quelqu'un que vous aimez là, et l'autre, vous ne l'aimez pas, donc forcément, on a tendance à aller vers défendre la personne qu'on aime, comment défendre une personne que je n'aime pas. Enfin, on va dire, c'est un peu triste de ne pas aimer quelqu'un déjà, mais on se comprend. Et puis, il a besoin d'un tiers pour leur ouvrir les yeux, puisqu'il parle du fidèle collègue qui va devoir lui venir en aide. Certainement que Paul ne pouvait pas agir puisqu'il était en prison, mais il s'entoure aussi de fidèles collègues, pas du premier venu. S'il y a un problème dans l'Église que je veux dénoncer, c'est bien d'avoir, on va dire, un ou deux frères qui sont fidèles, qui vont s'y garder pour eux, qui vont avoir la pudeur, la discrétion, la neutralité pour aller régler le conflit. Des fois, quand on est responsable et qu'on voudrait en parler à notre femme, on ne peut pas. J'aimerais parler beaucoup de choses à ma femme, mais je ne vais pas le faire. Ce n'est pas toujours évident. Mais il a trouvé des collègues pour le faire. Et Paul n'a pas réglé le problème tout seul. Il s'est entouré aussi. Et ça, c'est de la sagesse, je pense, pour moi. Savoir s'entourer, des fois, dans les moments vraiment difficiles. Et son seul objectif, c'est qu'ils aient une même pensée dans le Seigneur. En fait, il est en train de dire... Arrêtez de vous crêper le chignon, ayez une même pensée dans le Seigneur, et vous allez vous réjouir. Tout simplement, c'est ça. Puisqu'il dit plusieurs fois, réjouissez-vous. Donc une même pensée dans le Seigneur, c'est régler mes conflits les uns avec les autres, avec le but de se réjouir au bout. C'est beau quand deux personnes se réconcilient, non? J'adore ces moments-là. Je ne vais pas dire que j'adore quand ils se disputent avant pour qu'on puisse arriver à la réconciliation, mais quelque part, c'est beau. Et qu'on se pardonne réellement, et qu'on se réjouit. De toute façon, quand il y a le sourire après, ça veut dire qu'on s'est pardonné réellement. Mais voilà quelques astuces, quelques moyens, on pourrait dire, pour si dans l'Église, quelqu'un rentre avec une fausse doctrine, si dans l'Église, des frères, des sœurs se disputent, comment agir? Ben, souvenez-vous de ce passage de Philippiens, chapitre 4, versets 1 à 3, et remémorez la manière d'agir vis-à-vis de l'autre. Je pense que ce n'est pas que dans l'Église, on peut agir comme cela avec nos enfants, on peut agir comme cela avec nos collègues, on peut agir de la même manière, bon, les circonstances sont un peu différentes. On ne peut pas dire à un collègue, soit d'une même pensée dans le Seigneur, ça on est bien d'accord. Mais bon, on peut être d'une même pensée dans le service, comme ça on ne va pas se disputer, quelque part. Mais Paul avait ce courage, parce qu'il avait comme but de conserver l'unité dans l'Église. Et il était prêt à payer de sa vie pour gérer les conflits avec beaucoup de sagesse. Cette sagesse, c'est parce qu'il était dans le Seigneur, uniquement. Et c'est comme cela qu'il pouvait régler. On ne sait pas si ça s'est réglé, en fait. Et la Bible ne nous dit rien. En tout cas, au moins, on a un exemple de comment faire. Pour terminer, on l'a vu, l'unité, ça ne dépend pas du voisin. Souvent, les autres, ils doivent changer, ils doivent grandir, ils doivent être un peu plus spirituels. Non, l'unité, ça dépend de moi d'abord. Moi et Dieu. Moi et ma relation avec Dieu. Est-ce que je suis prêt à mûrir? Oui, je veux grandir avec le Seigneur. C'est demain matin que je vous pose la question. C'est après-demain matin que je repose la question. Est-ce que je suis prêt à mûrir avec le Seigneur? En apprenant plus la Bible, c'est-à-dire la doctrine, ça veut dire que c'est un effort. Il faut que je lise la Bible, il faut que je vienne aux études, il faut que j'apprenne. Il y a mille et une manières aussi d'apprendre. Est-ce que je veux me consacrer vraiment au Seigneur, ou alors je vais passer ma vie en chrétien de base, on va dire? Est-ce que je veux vraiment m'engager avec le Seigneur? Est-ce que je veux imiter Jésus-Christ? Et là, on met la barre très haute. Et pourtant, c'est ce que Paul est en train de demander aux Philippiens. La question, c'est est-ce que moi, je le veux? Ce serait un beau cadeau de Noël pour le Seigneur que de décider ça à la fin de cette année. Je veux vraiment m'engager avec toi, Seigneur. Je crois que le Seigneur, il serait heureux, non? Ouais, pourquoi vous ne lui faites pas le cadeau? Pourquoi on ne lui fait pas le cadeau? Alors, il y en a qui sont consacrés. On peut dire un peu plus encore consacrés. Deuxième cadeau. C'est un beau cadeau. Suis-je capable d'identifier les faux docteurs aujourd'hui, si je vous faisais écouter quelque chose un jour? Est-ce que vous êtes capable de discerner les fausses doctrines? Je ne vais pas vous faire un truc flagrant, parce que ça, on le sait, mais est-ce qu'on est capable? Ce n'est pas pour être accusateur ou culpabiliser, ce n'est pas ça l'idée. Mais c'est quand même à un moment de se dire, est-ce que j'ai assez pris le temps de connaître mon Seigneur? Parce que je le suis, je veux lui obéir, mais je ne sais pas forcément qui il est. Est-ce que j'ai pris le temps de lire la Bible suffisamment pour pouvoir, justement, dans certaines circonstances, identifier le mal, les faux docteurs? Et puis, au cas où, les reprendre, par exemple. Si vous êtes au travail, j'entends souvent, on en parle, qu'il y en a qui parlent de ci et de ça, et que ben, vous n'êtes pas d'accord avec, est-ce que je suis capable d'ouvrir la Bible et dire, voilà, ce verset dit que tu as tort? On n'est pas tous des experts, mais il y a quand même des choses de base. Vous savez, les gens dehors, ce n'est pas des experts non plus de la Bible, donc on va les reprendre sur des choses basiques, forcément. L'unité de l'Église, c'est un défi, et de plus en plus aujourd'hui, je pense. Mais c'est possible, nous dit Paul, si chacun d'entre nous, nous faisons un effort. Et si ça part à un moment en problème, il faut qu'on s'arrête tous en me souvenant que j'ai peut-être pas raison. Voilà. J'ai peut-être raison, mais si j'ai au moins l'humilité de me dire, c'est pas parce qu'on a raison qu'on doit foncer dans le tas. On doit aussi savoir se tempérer quand on a raison, s'arrêter pour que l'autre ait le temps de comprendre les choses. C'est pas toujours évident. Mais ça, c'est un effort que je dois faire. Il s'agit aussi d'être vigilant à l'extérieur. Ça, on essaie de faire attention à tout ce qui se passe dans ce monde, mais aussi à l'intérieur de l'Église. C'est vrai que c'est le rôle du berger, souvent, ou des responsables, mais on est tous là aussi. Et moi, généralement, c'est le pasteur qui sait en dernier les choses. C'est souvent le cas. Parce qu'il y a des conflits, parce qu'il y a des choses. Ben, si je le sais, pourquoi pas aller voir les responsables et en parler, pour que nous puissions gérer aussi le problème, tout simplement. Les dangers sont de l'extérieur et de l'intérieur. Le diable, lui, aujourd'hui, il planifie pour demain. Hein. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire pour nous embêter dans cette église ? C'est vrai. Hélas, c'est vrai. Pas que demain, mais après-demain, 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 et etc. Lui, ce qu'il veut, c'est que l'église des Tréchis tombe. Ça, c'est son but, hein. Ça, j'en suis convaincu. Elle grandit. C'est pas parce qu'elle grandit. C'est... Généralement, quand on est béni, il faut faire attention. C'est là où c'est le plus compliqué, souvent. Mais si on en est conscient, si on se prépare, si on prend le temps d'avoir une vraie vie consacrée avec le Seigneur, dans la prière, dans la lecture de la parole, dans cette fidélité, dans l'unité, alors on est prêt à combattre, tout simplement. Cette unité conduit à nous réjouir. Quand on est ensemble d'un même sentiment, cheese, non ? C'est chouette d'avoir des frères et des sœurs dans la joie, pardon ? Cheese, ouais. Si on est d'accord les uns avec les autres, bon, on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais si on a vraiment ce même but, on va vivre dans l'Église heureux. C'est quand même bien, non ? Vous êtes heureux ? Pas tout le monde, hein. Vous n'êtes pas unanime là. Hein. Il y a peut-être des différents avec moi, je ne sais pas. Mais c'est ça le but, hein. C'est qu'on puisse venir à l'Église avec la joie, hein, que le Seigneur nous donne, mais aussi parce que nous sommes unis en Christ, tout simplement. Et un jour, Jésus va revenir et la gloire va nous attendre. Et là, on va vivre une vie d'unité parfaite. Ça sera merveilleux, mais ça va venir bientôt. Et je vais terminer sur ce petit article de Ralph Challis, hein, qui a écrit... Ralph Challis est un écrivain assez connu, hein, il y a quelque temps. « Je crois que l'unité de tous les vrais croyants en Christ existe déjà dans la pensée de Dieu. Et cela signifie donc que cette unité est une réalité et non un principe spirituel théorique. » Pas une théorie, c'est une réalité. Il est donc évident que nous devons commencer par croire au fait de cette unité, sachant que ce qui est réel pour Dieu doit l'être aussi pour nous. Souvent, on croit à l'unité, ou on sait que ça existe, mais ça doit devenir réel pour moi. Quand je comprends réellement que mon frère et moi sommes absolument un en Christ, quelle que soit l'imperfection de notre compréhension, et quelle que soit la faiblesse de notre vie spirituelle, ceci ne peut avoir qu'un résultat. Je commence à prier pour mon frère avec foi, et plus je prie pour lui, plus je l'aime. Même s'il m'a fait mal, et va à mon encontre, je l'aime, car Christ l'aime puisqu'il a payé pour son âme le même prix que pour la mienne. Je découvre que je ne peux pas m'empêcher d'aimer les gens pour lesquels je prie. C'est peut-être pour ça qu'on ne s'aime pas assez, parce qu'on ne prie pas assez les uns pour les autres. Si les chrétiens commencent à prier les uns pour les autres, et les uns avec les autres, ça aussi c'est important. En croyant qu'ils sont un en Christ, le peuple de Dieu verra alors émerger de façon visible l'unité spirituelle. Elle ne dépendra pas d'une conformité extérieure, elle sera l'unité du cœur, profonde, réelle, inébranlable, quelles que soient les circonstances. Le Seigneur nous aide à vivre de cette manière-là. On va prier. Seigneur, merci pour cet épître aux Philippiens et tout particulièrement pour Paul qui nous rappelle le besoin d'unité, qui nous rappelle surtout que cela dépend de chacun d'entre nous. Aujourd'hui, Seigneur, je te prie que nous prenions le temps de savoir où nous en sommes avec toi, de faire le bilan, surtout en cette fin d'année, de réfléchir à notre consécration, à notre service, à notre relation avec toi, pour évidemment l'améliorer parce que chacun d'entre nous pouvons faire mieux. Que ça ne soit pas une option dans notre vie, Seigneur, mais d'abord, tout simplement pour te faire plaisir, puisque tu as donné ta vie pour cela, mais aussi pour que nous puissions rester unis dans cette Église et grandir dans cette unité, grandir en nombre, mais grandir en maturité, en connaissance de ta parole, dans la capacité aussi de nous défendre si jamais l'ennemi attaque, Seigneur. Tu nous veux mûrs, tu nous veux fidèles, Seigneur, et c'est là ton projet pour chacun d'entre nous. Aide-nous si on a du mal, Seigneur. Aide-nous à avancer. Aide-nous à rester tout simplement unis pour te faire plaisir. Et je te prie en Jésus-Christ. Amen. Amen.